Alors, moi, je m'appelle Aude, je viens du coup de la région parisienne, en 95, et actuellement, je suis secrétaire médicale dans le 93.
Ça fait longtemps que tu fais ça?
Alors, le secrétaire médical, j'ai commencé l'année dernière, j'ai fait une reconversion professionnelle, du coup, j'ai eu mon diplôme, et après, je me suis mis directement dans la radiologie, parce que c'est le domaine qui m'intéressait plus.
Okay.
Donc, voilà, parce qu'il y a un peu de tout, tu fais pas que de l'accueil, et même si c'est entre guillemets des radios, tu as toujours des diagnostics différents et du coup, je trouve que tu apprends plein de choses. Même sur une seule maladie, tu as plusieurs dérivés, etc. Et je trouve que tu apprends vraiment plein de choses. Et en fait, moi, c'est ça aussi que j'aimais bien, que ça soit pas trop routinier, sinon je m'ennuie et je sais que je vais changer de boîte. Donc, il fallait que je trouve un domaine qui bouge un peu.
Okay. Ça a été quoi ton parcours pour en arriver là?
Alors, j'ai eu un bac économique et social. Ensuite, j'ai commencé une licence d'informatique que j'ai arrêtée parce que finalement ça m'intéressait pas trop. Et en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire après le bac, du coup, j'allais un peu toucher un peu à tout. Ensuite, après, j'ai fait un début de licence de psycho. J'ai arrêté aussi pour des raisons personnelles. Et après, je me suis dit, bon, bah finalement, je pense que travailler c'est le mieux pour moi parce que rester en fait sur le banc de l'école, ça m'intéressait pas, je m'ennuyais. Même si le cours m'intéressait, le fait d'être assis comme ça pendant des heures à gratouiller, je décrochais. Donc du coup, je me suis dit, soit faut que je trouve quelque chose en alternance, soit faut que je travaille. Sauf que comme je savais pas encore ce que je voulais faire, je pouvais pas me lancer dans quelque chose encore et trouver l'alternance qu'il me fallait. Donc j'ai commencé à bosser tout bêtement à Cora en tant que caissière. Et puis après, j'ai trouvé un autre poste sur Paris. Je suis restée dans la boîte 5 ans. Et ça m'intéressait vachement parce que c'était sur les conditions de travail dans toutes les boîtes. Donc du coup, on faisait des expertises. On avait les gens au bout du fil. On avait des consultants qui faisaient des entretiens avec les salariés. Et du coup, ça m'a appris plein de choses. Tout ce qui était CHSCT, RPS, des choses comme ça. Et du coup, je trouvais ça intéressant aussi. Et puis après, une fois que j'ai fait tout le tour, je me suis lassée en fait, parce que comme ça reste du bureau à mon niveau, j'ai vite fait le tour. Donc au bout de 5 ans, comme j'avais touché à toutes les positions, j'ai senti qu'il fallait que je parte. Et le secrétariat médical, ça m'avait toujours intéressée, mais en fait, j'avais peur de me lancer parce que je me disais, ouais, mais reprendre des études quand on a déjà 25 ans, 26 ans. Et en fait, plus j'attendais et plus je me disais, oui, mais non. Et j'ai trouvé une école qui faisait un partenariat avec Pôle emploi, ce qui fait que j'avais quand même une petite paye. Donc du coup, ça allait. Parce que comme j'avais travaillé pendant 5 ans, j'avais des impôts, des choses comme ça aussi à ma charge. Donc je ne pouvais pas partir sans rien. Et c'était sur 6 mois. Donc du coup, c'était court. Un seul jour de cours. Et tout le reste, c'était sur le terrain. Donc du coup, ça m'allait très très bien. Et voilà. Du coup, après, j'ai fini comme ça en radio.
Et donc là, aujourd'hui, tu habites où? Seule, en coloc?
Alors là, du coup, maintenant, je suis dans le 93 à Tremblay. Et toute seule. Voilà, donc là c'était la première nuit, ça s'est bien passé, à part le vent là où par moments ça fait un peu peur parce que ça fait des bruits bizarres. Donc la première fois quand j'ai entendu, j'ai cru qu'il y avait une petite fille qui se faisait tabasser, mais je te promets ça a fait ça a fait un bruit comme dans les films d'horreur, tu sais, quand elle crie, que sur le coup je me suis dit bon, peut-être, parce que dans l'immeuble il n'y a pas d'enfant, il n'y en a qu'un seul, il est au-dessus, c'est un petit garçon, je me suis dit bon, peut-être c'est à côté et tout. Et donc j'ai commencé à flipper, je me suis approchée là et en fait j'ai vu que c'était la porte et là je me suis tapé un fou rire, je me suis dit en fait t'es folle, tu t'imagines des trucs et pour rien quoi. Mais non, sinon voilà. Alors je l'ai acheté, du coup en fait je regardais un peu les annonces sur Le Bon Coin, enfin tous les sites PAP, etc. Et ensuite après je me suis rapprochée d'une agence. Je regardais en fait si c'était mieux aussi de prendre dans le neuf ou dans le vieux, parce que les crédits sont différents aussi. Et elle m'a montré, en fait c'est bizarre, mais j'ai visité que deux apparts, dont un à Tremblay Vieux Village, mais j'aimais les alentours, mais dans l'appartement je me sentais pas à l'aise. Et ensuite, elle m'a fait visiter celui-ci et j'ai tout de suite accroché. Parce que moi, je voulais de base, je voulais un F3. Et j'arrivais, par rapport au prix, j'arrivais que à un F2. Et encore avec les charges, après, ça devenait des charges trop lourdes. Et ici, j'ai eu la chance de pouvoir avoir le F3. Et en plus, les charges individuelles, du coup, c'était tout bénef pour moi. Et voilà, c'est peut-être pendant 2 mois où, du coup, c'était un petit peu stressant parce qu'on n'a pas la réponse définitive de oui ou non. Parce que c'était à deux personnes, il y avait la maman et le fils. Et le fils étant pas ici et tout le temps en voyage, même si la mère me disait oui, et tant que j'avais pas la réponse définitive et écrite du fils, c'était toujours en stand-by. Donc ouais, c'était un peu stressant. Mais c'était trop marrant, parce qu'en fait, du coup, le compromis de vente, il a été signé le jour de mon anniversaire. Donc je me suis dit, c'est un signe. Et chez le notaire, je suis passée 3 jours avant l'anniversaire de ma mère. Et je me suis dit, bon, je trouve ça plutôt marrant, en fait.
Et du coup, donc, tu es devenue propriétaire à quel âge ?
29 ans.
À 29 ans. Mmh. Et c'était un projet que tu avais de devenir propriétaire?
Ouais. Moi, je voulais être propriétaire. Bon, là-bas, je voulais être propriétaire avec une famille à mettre dedans. Au final, je suis juste propriétaire. Mais d'un côté, en fait, je me sens un petit peu plus fière aussi parce que je me dis que je l'ai fait toute seule et je n'ai pas eu besoin de quelqu'un d'autre. C'est aussi plus stressant parce que du coup, t'as personne, si jamais tu te rates ou si tu as une petite galère financière, tu es toute seule à pouvoir l'assumer. Il n'y a pas, on va dire, un filet de sécurité qui peut te soutenir. Mais en même temps, je pense que j'ai pris les bonnes décisions et que j'ai réussi, je pense, à faire les choses correctement pour pouvoir m'en sortir, même en cas de petite galère. Bon, après, il y a toujours ma mère, c'est jamais. Mais en fait, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où je suis partie chez ma mère, ça veut dire que je peux m'assumer et que j'ai pas besoin de retourner la voir ou quoi que ce soit. Et lui demander... Enfin, on peut toujours lui demander de l'aide, mais vraiment en cas de gros, gros coup dur. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pris un peu mon temps pour partir.
Et de plus en plus difficile de devenir propriétaire, surtout à nos âges.
C'est ça. Ça, je m'en suis rendu compte dans les recherches. Parce que tout ce qui est petit, en fait, ça prend vite beaucoup en valeur, suivant où ça se situe aussi. Du coup, dans le secteur que je cherchais aussi, dans le 77 à la base, 93, mais comme là, limitrophe 77, les prix sont assez chers. Et du coup, ouais, j'avais du mal à passer. C'était soit, en fait, j'achetais... Et là, je mettais toutes mes économies. Et il y avait toujours des petits travaux à faire, même si c'était neuf et je ne pouvais pas assumer. Soit là, j'ai eu la chance qu'on puisse m'aider à faire les travaux. Et du coup, j'ai pu me permettre d'acheter et en même temps de faire les travaux. Donc du coup, ouais, là, je pense que j'ai vraiment eu un coup de chance.
Au niveau culturel, quels sont les artistes, les films, les dessins animés, les chansons, les jeux vidéo qui t'ont marqué?
Alors, les jeux vidéo, tu vas me prendre pour une folle après. C'était surtout les jeux de films d'horreur. D'où après tu vois la petite fille avec la porte,
c'est ça.
Mais ça c'est à cause de mon père, parce que mon père en fait jouait beaucoup sur les jeux vidéo. Du coup après mon frère a commencé à y jouer et moi je voulais pas rester en dehors de ça, et donc je regardais souvent mon père jouer. Mais le pire c'est que ça m'intéressait. Donc il y avait un jeu de guerre, je crois que c'était Command & Conquer, un jeu comme ça sur PC. Donc j'ai vu mon frère commencer à jouer, donc du coup après mon frère m'apprenait à jouer, donc il était content. Mais surtout ce qui m'a marqué c'est Resident Evil sur la PlayStation. Et je flippais, mais il fallait que je regarde. Et mon père, en plus, nous laissait regarder. Donc, du coup, moi, j'adorais. Et au final, après, moi aussi, j'ai commencé à jouer à ces jeux-là. Mon frère, moins, parce qu'il l'appréciait pas trop. Et après, en fait, tout ce qui était ce genre de jeu en mode duo, on jouait avec mon frère. Et en fait, j'adorais, parce que sur les jeux vidéo, d'habitude, j'écoutais ce que disait mon frère. Mais là, comme lui, il avait peur, c'est lui qui écoutait. Et franchement, j'adorais, du coup, parce que je retrouvais mon rôle de grande sœur sur son domaine à lui, en fait. Et du coup, je trouvais ça sympa. Donc ça, c'est pour les jeux vidéo. Après, non, il y a eu Crash Bandicoot aussi, tout ce qui c'était ce genre de jeu. Les Gran Turismo, les choses comme ça. Après, en dessin animé, tout ce qui était Disney. À l'heure actuelle, j'adore toujours Disney. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Le Roi Lion. Je sais pas pourquoi, mais c'est le seul dessin animé où je me rappelle encore où j'étais. Et je revois la pièce. Et je me rappelle qu'avec la cassette, à l'ancienne, les cassettes. Et je me rappelle qu'on a commencé à le regarder en noir et blanc, parce qu'avec mes cousins, on n'arrivait pas à brancher la prise correctement. Et mon père est arrivé parce qu'il nous entendait plus, donc il se demandait un peu ce qu'on faisait, parce que des enfants, plein d'enfants dans une pièce qui font pas de bruit, c'est bizarre. Et il a branché la prise, et alors là, j'étais encore plus à fond dedans avec toutes les couleurs. Et je pourrais pas dire pourquoi ce dessin animé en fait m'a marqué, mais c'est celui que j'ai le plus retenu, que j'ai vraiment préféré.
Tout le monde le sort.
C'est vrai?
Je te jure.
Ah merde, ça fait flipper ça.
Ouais,
c'est marrant.
Il nous a vraiment marqué ce dessin animé, c'est fou.
Mais je saurais pas dire pourquoi. Mais j'étais à fond. Ça après, tout ce qui est Mulan, Pocahontas, etc. Toutes les chansons de Disney que je pense qu'on connaît tous par cœur. Maintenant, après, c'est vrai que les Disney de maintenant, je pense que c'est pas pareil. Bon, à part La Reine des Neiges, là, le truc que tout le monde connaît aussi, mais par obligation. Mais ouais, tout ce qui était ça. Après, dans les chanteurs, je pense qu'on a tous eu notre période des boys bands. Hein. Mais je sais pas, je pense pas qu'il y ait un chanteur en particulier qui m'est vraiment arrêté. Là, je pourrais pas te dire. Mais vraiment, c'était tout ce genre de truc. Après, j'écoutais aussi beaucoup les chansons que ma mère écoutait aussi et que mon père, mais ça, après, c'est leur génération, c'est pas la nôtre. Mais voilà. Et dans les films, je dirais, il y a Jurassic Park et Men in Black. Et parce que, je sais pas, j'adorais les dinosaures et ça m'a bien marqué parce que je trouvais que c'était super bien fait. Mais encore une fois, Men in Black, un truc trop bête. Mais là aussi, je me rappelle la première fois que j'ai vu, je me rappelle où j'étais. Et je sais pas, et du coup ça m'a marqué. Et je me rappelle mon père, je l'avais regardé avant mon père avec une amie. Et le soir quand mon père est rentré, il a remis le film. Et bah, je sais pas si tu l'as vu ou si tu te rappelles au début quand il explose le premier extraterrestre et que ça, il y a du bleu partout sur les cactus. Et mon père, il me dit, ça c'est comme quand tu manges un marshmallow dans ta bouche. Ça explose dans tous les sens. Et en fait, ça, je sais pas, c'est resté dans ma tête. Et comme mon père, enfin, il n'était pas trop souvent là avec le boulot et tout, et ben, je sais pas si c'est ça qui a fait que du coup je me suis souvenue et que ce film m'a marqué. Mais voilà.
Okay. Ils écoutaient quoi comme artiste, tes parents?
Alors ma mère, elle, c'était plus, tu sais, Chant de France, Nostalgie, les trucs vraiment qui passent ses chansons à elle. Ce qui fait que du coup, après, il y a des chansons qui te restent en tête. Et mon père, c'était plus, du coup, les artistes qui arrivent, enfin, pas de notre génération mais à nous, mais peut-être plus que ce qui est genre Mylène Farmer, Indochine, ou des choses comme ça. Ce qui fait que moi aussi, après, j'ai écouté. Et voilà, mon père, il est très éclectique sur toutes les chansons, en fait. Donc du coup, bah, j'entendais un peu plusieurs domaines, en fait, sur ça.
Selon toi, qui sont les héros de nos générations?
Bah ça, tu vois, j'ai pas réussi à trouver une réponse à cette question. C'est bête, mais en fait, j'avais beau chercher, je sais pas. Ça m'est pas venu, j'ai pas trouvé de réponse en fait à ça.
C'était quoi tes rêves d'enfant?
Alors moi, quand j'étais petite, ce que je voulais, bah, encore une fois, on revient sur la famille. Moi, je voulais mes enfants, en fait, leur donner tout ce que moi, j'avais eu. Et moi, c'était ça, mon but, c'était d'arriver à faire la même chose que mes parents ont fait. Bon, je sais pas si j'y arriverai, mais c'était ça à la base.
C'est beau.
J'avais Non, mais c'est vrai, j'avais pas, c'était pas, oui, je veux devenir maîtresse ou pompier ou je sais pas, c'était ça. Donc c'est pour ça que là, tu vois, le fait de partir et de pas avoir ce que je disais tout à l'heure, la famille à mettre dans l'appartement, au départ, je l'ai pris un peu comme un échec aussi, en me disant c'est une moitié de réussite. Mais après, voilà, je pense que les choses se feront quand elles devront se faire. Et là, je pense qu'en fait, ça rejoignait un peu une question à toi quand tu parlais du couple, etc. Et je pense que c'est aussi une histoire de société qui nous met la pression de dire, bah, à 30 ans, quand tu regardes, ils ont déjà tous, enfin, les gens sont tous en couple, ils ont tous une vie posée, des enfants, etc., etc. Mais en soi, il n'y a rien qui dit qu'à 30 ans, tu dois avoir cette vie. Et je pense que ça aussi, ça m'a mis la pression indirectement.
C'est quoi tes craintes?
Il y avait mon grand-père aussi, c'est bête aussi. Mais moi, je mange pas beaucoup, j'ai un petit appétit. Par contre, je mange en plusieurs fois, mais je mange pas beaucoup. Et je me souviens que mon grand-père, tout le temps, me disait, pour que je mange, t'arriveras pas à avoir d'enfants, tu pourras. Il y a des enfants qui pourront un grain de riz, qui pleurent dans le monde, etc. Sauf que c'est pas que je voulais pas manger, c'est que je sentais que je ne pouvais plus manger. Et je pense que ça m'a marqué. Comme moi, c'est ce que je voulais, le fait qu'ils me disent, mais c'était pas méchant de sa part, je pense que c'était juste pour me faire manger, qu'ils me disent, t'arriveras pas à avoir d'enfants, et ben ça m'a encore plus mis un peu la pression de me dire, mais dépêche-toi, parce que si tu peux pas les avoir, faut que tu trouves des techniques derrière. Et après, bon voilà, avec le temps, je me suis dit, c'est pas trop ça. Mais ouais, c'était ça. Et j'ai eu ma petite période, la peur de la mort. De voilà, en fait, tu disparais, il reste plus rien, comment ça se passe et tout. Et je sais pas, j'ai eu cette période où vraiment j'étais pas bien, et le soir ça réfléchit, et je flippais vraiment. Et après, ça m'est passé, je sais pas, je me suis dit, en fait, ça fait partie de la vie, peut-être que derrière t'as autre chose aussi, enfin voilà, tout plein de choses. Mais ouais, mes craintes c'était plus ça.
Est-ce que tu arrives à te souvenir si tu as facilement compris le concept de la mort?
Alors, je ne sais pas si je l'ai facilement compris, mais je me souviens quand j'étais dans la cuisine, et je ne sais pas pourquoi, en fait, ça m'est venu, ça, j'ai flippé. J'étais petite, hein, et je pleurais. Alors, moi, maman, un jour, elle va mourir, mon papa, il va mourir, etc. Et en fait, je ne sais pas après quand ça m'est passé, mais j'ai bien compris qu'en fait, une fois que la personne était morte, elle n'était plus là et que tu la voyais plus. Et je pense que c'est ça, en fait, qui me faisait peur. Et qu'après, même toi, quand tu meurs, ben, il reste plus rien. Et qu'est-ce que tu fais, en fait? T'existes plus. Et en fait, je crois que c'est ça qui me fait peur, de dire, il n'y a plus rien, quoi, après. Alors qu'on ne sait pas en soi. Mais je pense que c'est ça, en fait, qui me faisait. Et je pense qu'il y a le genre actuel qui me fait toujours peur. C'est peut-être l'inconnu, mais c'est vraiment le fait de tout disparaître, en fait. Il n'y a plus rien.
Et t'as plus peur de la mort des autres ou de ta mort?
Je dirais de la mienne. Pas par égoïsme, mais parce que en fait, je me dis que eux, ils sont ailleurs, ils sont mieux. Mais est-ce que moi, tu vois, je serais mieux? C'est bizarre, en fait, mais je sais pas. Je pense que c'est plus ça qui me fait peur.
C'est quoi être adulte? Et à partir de quand on devient adulte?
Ben, c'est quoi être adulte? Moi, je pense que c'est plus un état d'esprit qu'un âge ou quoi que ce soit. Et encore une fois, je pense que c'est la société aussi qui nous pousse à être adulte. Parce que t'en as qui doivent être adultes plus jeunes par rapport à leur vie à eux. Et je pense que c'est plus les responsabilités que tu dois porter qui font que t'es adulte. Et encore une fois, je pense que la société te dit aussi, à partir de tel âge, tu dois arrêter de faire ci, parce que c'est plus de ton âge, tu ne dois plus faire ceci, des choses comme ça. Et pour autant, je pense que c'est pas parce que tu vas regarder les dessins animés Bob l'éponge quand je me mets devant Netflix et que je suis à fond dedans que je suis pas un adulte pour autant. Parce qu'après, ben voilà, quand il faut assumer les choses que tu dois assumer, on est capable de le faire tout en regardant les dessins animés. Et je pense qu'en soi, il y a pas vraiment d'âge. Je pense que c'est ta vie en fait qui fait que tu deviens adulte, ce que tu rencontres, que tu dois peut-être aussi supporter, les choses comme ça, qui font que tu grandis et que tu deviens adulte. Et je pense que suivant l'âge et la période à laquelle tu les rencontres, c'est ça qui fait que tu deviens un adulte. Mais je pense vraiment que c'est plus un état d'esprit que de l'âge ou quoi. Je pense que c'est vraiment ce qui t'entoure qui te fait que tu deviens adulte.
Est-ce que toi, tu te considères comme adulte?
Moi, je me considère plus comme un adulte enfant. Je me considère adulte sur les choses comme l'appartement ou les choses comme ça que tu es obligé de prendre. Mais après, une fois que tout ça s'est passé, moi, je suis la première à rigoler sur des blagues pas drôles ou à les sortir. J'ai besoin de rigoler pour oublier qu'il y a toute la pression derrière de tout quotidien, en fait. Je peux pas dire que je suis qu'une enfant, parce qu'il y a des... Enfin, je pense que si t'es qu'une enfant, tu peux pas non plus prendre ton appart tout seul et faire certaines choses. Mais il y a quand même cette part d'enfant et je pense que des fois, je préfère la laisser prendre le dessus que de me prendre la tête à dire « il faut encore faire ceci ». Enfin, de réfléchir, en fait, sur les choses d'adulte qu'il faut faire. Donc une fois que je vais réfléchir peut-être 15-20 minutes, ouais, il faut que je fasse ça, je vais le lister. Après comme ça, parce que du coup ça me stresse parce que je sais qu'il faut les faire. Mais après c'est bon, une fois que c'est fait, moi je passe à autre chose et voilà, je me mets sur mon canapé et il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus l'histoire de prise de tête sur ça.
Selon toi, tu es devenue adulte à partir du moment où tu as acheté ton appartement et que tu es partie chez tes parents?
Ouais, alors là c'est encore un peu récent, donc du coup j'ai pas trop ça, enfin j'ai pas encore trop le recul, mais je pense que c'est ça, parce qu'en fait, même si j'étais indépendante, j'ai ma voiture, je fais ce que je veux, etc., bah t'es quand même chez ta mère, et je sais pas, je rendais des comptes, mais tu te sens un peu obligé quand même de dire ah, « bah, je vais là-bas avec telle personne, je rentre à telle heure », et tu te sens aussi un peu obligé de rentrer à certaines heures pour pas réveiller, pour aussi dire bah, « je vais manger, si tu viens pas manger, il faut le dire », etc. Et moi, ma mère aussi, et je pense que peut-être tous les parents, tu restes leur bébé, quel que soit ton âge, et ils ont tendance aussi à t'infantiliser. Là, t'as pas envie de manger, non mais si, il faut que tu manges, je t'ai fait ceci, est-ce que tu veux que je te fasse ça et tout. Non, je veux juste pas manger, t'inquiète, je ferai à manger après. Mais du coup, tu te sens obligée quand même de tout ça. Et je pense que ouais, là, vraiment, je vais sentir ce pas de... Je pars de chez mes parents, et là, ouais, il y a le côté adulte qui va prendre un peu plus le dessus, parce que bah, par obligation. Mais je pense que quand t'es chez tes parents, quel que soit ton âge, c'est difficile de vraiment avoir ta vie à toi d'adulte.
Comment tu vis le fait d'avoir 30 ans et de vieillir de manière générale?
Moi, je le vis pas très bien, parce que j'ai pas envie de grandir en fait dans ma tête. Enfin, j'ai pas envie de grandir, je m'entends, mais j'ai envie de garder cet esprit bon enfant, etc. Et encore une fois, ben, par rapport à la société, quand t'es en dehors de tes murs, ben, t'as 30 ans, tu dois quand même montrer une image de quelqu'un de responsable, etc. Et du coup, ouais, c'est pas que ça me pose un problème, mais ça me dérange quand même quelque part, en fait. J'ai envie que, quel que soit l'âge, tu vois, bah, si j'ai envie de faire mes bêtises, j'ai pas envie qu'on me dise non, mais t'as 30 ans, faut plus faire ce genre de truc ou quoi que ce soit, quoi. Et en plus, comme je fais pas mon âge, souvent les gens ont tendance, soit pas à me prendre de haut, mais ils vont pas avoir je vois bien le même discours qu'avec une personne qui est à côté de moi, qui a le même âge que moi, mais qui, elle, fait son âge, en fait. Et du coup, je pense que ça me met encore plus dans mon rôle de pas forcément d'adulte. Et ça me va très bien, en fait, de les laisser croire que voilà, que j'ai peut-être que 25 ans. Parce que la plupart du temps, quand je leur dis que là, je vais avoir 30 ans, personne ne me croit. Et donc, du coup, ça me va aussi, en fait. Parce que ça me fait un petit peu une double casquette. Tant qu'ils savent pas... Et je vois bien qu'une fois qu'ils savent mon âge, ils ont plus plus trop la même approche. C'est un petit changement. De là, on me prend un peu plus au sérieux parce qu'en fait... Ah ouais, elle a 30 ans, elle n'a pas que 25 ans ou quoi que ce soit. Et c'est pareil, comme j'ai commencé à travailler jeune, ben dans le domaine du boulot, je sais aussi comment je dois me comporter ou les choses comme ça. Et j'arrive aussi facilement à me détacher de tout ce qui est prise de tête au travail, surtout que nous, c'est quand même un domaine de filles. Donc ça va vite, ça part pour rien, enfin tout ça. Et j'arrive... Avant, j'avais du mal aussi, je pense qu'il y avait la jeunesse et l'inexpérience. Mais j'arrive à me détacher, de me dire, bon, ok, là, ça m'a pris la tête, mais quand je vais rentrer chez moi, maintenant, avant, je vais réfléchir. Et là, je me dis, ben, je m'en fous, en fait, je suis là-bas juste un peu par obligation, parce que j'en ai besoin aussi pour en vivre. Donc, j'y vais, et puis après, quand je rentre chez moi, elle fait sa vie, et je fais ma vie, et voilà, quoi. Et ça, je pense que ça aussi, c'est aussi d'un côté de devenir adulte, arrêter de se prendre la tête et les trucs d'enfant, quoi. Que tu te dis, ça, en fait, quel est l'intérêt? En plus, t'es déjà passé par là, t'as vu ce que ça donnait, bah, ça sert à rien. Donc ouais, peut-être qu'elle a plus d'expérience, elle est plus âgée que toi, mais au final, bah, toi, ça te passe au-dessus. Et je pense que ça les blesse plus, en fait, parce que vu que t'es plus jeune, parce que je suis la plus jeune dans la boîte, je crois que celle qui est juste après moi, elle doit avoir 36, quelque chose comme ça. Donc du coup, ils ont tous aussi une vie de famille. Et ben, ils savent aussi que j'étais chez mes parents. Donc je pense que vraiment, ils me prenaient un peu comme, entre guillemets, le bébé du service. Sauf que je pense qu'ils ont vu par rapport à certaines réactions et de comment j'agissais, que c'était pas forcément le cas. Et du coup, là aussi, ça a changé le rapport, en fait.
Okay. Est-ce que tu as fêté tes 30 ans?
Alors moi, je fête pas trop mes anniversaires, parce que quand je les ai fêtés, à chaque fois, ça s'est pas très bien passé. Et ça fait, je crois que c'est le dernier anniversaire que j'ai dû fêter, c'était peut-être mes 20 ans, et encore c'est parce que les autres m'ont forcé à faire quelque chose ou des choses comme ça, ou parce que ma mère allait organiser un truc de famille. Mais ouais, je sais pas, j'aimerais le faire parce que je sais que c'est quelque, enfin je sais, encore une fois, on nous dit que c'est quelque chose qu'il faut fêter, mais je sais pas. Et même être le centre de l'attention, les choses comme ça, ça me met très mal à l'aise. T'arrives et tout le monde te regarde, joyeux anniversaire, je déteste ça. Et donc du coup, je sais pas. Je pense que si je fais quelque chose, ça sera un petit comité, mais plus en mode repas ou quelque chose comme ça. Vraiment un truc tranquille. Pas une grosse fête ou quoi que ce soit.
Est-ce que tes parents, du coup, t'as un petit peu répondu, ils te prennent au sérieux, ils te voient comme une adulte?
Là, du coup, ma mère, je pense que elle m'a toujours pris au sérieux. Bon, mon père aussi, mais après, comme je vis pas avec lui, c'est pas le même rapport. Elle m'a toujours pris au sérieux, mais il y avait toujours ce côté de ça reste ma petite fille, donc elle essaye de me protéger ou de me dire faire comme ci, comme ça. Mais là, ouais, je pense qu'ils vont prendre peut-être un tout petit peu plus au sérieux, je dirais. Mais après, comme elle a toujours vu que je me débrouillais seule ou des choses comme ça, je pense qu'elle sait quand même qu'elle peut me faire confiance ou me prendre au sérieux. Mais voilà. Mais mon père, non, je pense que mon père. Moi, mon père, en fait, je sais pas. Je pourrais pas dire comment on me voit.
Est-ce que tu sais ce qu'il faisait quand il avait 30 ans?
Par supposition, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas trop de ce genre de choses, ma mère a dû m'avoir vers 31 ans par là, donc je pense qu'elle était enceinte de moi, donc toujours à travailler en fait dans un hôtel à l'accueil. Et mon père, je pense qu'il devait déjà faire son boulot de chauffeur à la mairie de Paris. C'est des suppositions en fait, de quand elle me dit qu'elle avait accouché, que mon père devait travailler, choses comme ça. Donc je pense que c'était comme ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas des choses dont on parle. Et donc du coup, je ne me suis pas permise de leur demander tu faisais quoi il y a 30 ans et tout. Et en même temps, j'ai pas non plus osé. Bon, mon père, je l'aurais pas fait, mais ma mère, je pense que j'aurais pu. Mais j'ai pas trop osé parce que comme là aussi, en même temps, je pars et je vais avoir 30 ans. Je pense que ça lui fait un truc aussi. Je voulais pas lui dire et toi, il y a 30 ans, tu faisais quoi? Donc je sais pas, je vais pas trop rentrer dans le détail de faire tout ça.
Est-ce que tu penses que leur génération, elle était mieux?
Je pense qu'elle était différente, encore par rapport au niveau social. Je pense qu'il y a des choses maintenant que les gens se permettent qui ne se permettaient pas avant. Peut-être même des trucs tout bêtes tels que le divorce ou les choses comme ça, mais encore plus sur la génération de nos grands-parents, où bah, t'es marié, mais en fait, quelle que soit la difficulté, qu'il y ait l'adultère ou choses comme ça, et ben, tu restais toujours... Bon, après, on ne sait pas à l'intérieur, mais tu restais toujours soudé ou quoi que ce soit. Tu détruisais pas, entre guillemets, aussi vite ta famille. Ça, je pense que c'était peut-être un plus aussi. Je dis peut-être parce que des fois, c'est pas forcément évident. C'est mieux de se séparer que d'avoir une ambiance compliquée à la maison. Et l'école aussi, je pense que le rapport était mieux. Quand j'écoute ma mère qui me dit ils avaient des petits coups de règle ou des choses comme ça, je vois que maintenant, juste on monte un peu le ton, une heure de colle, et ça y est, ça part tout de suite au quart de tour, les profs se font gifler, les choses comme ça. Tout ça, ouais, je pense que ça, c'était vraiment mieux à leur époque. Et un truc tout bête aussi, c'est qu'ils avaient aussi les cours de travaux manuels, la cuisine, la couture et tout. Et nous, on n'a pas ça. Et c'est vrai que des fois, en fait, mais un truc tout bête, mais on recoudre un bouton ou faire des repas, etc., ben, on ne sait pas forcément le faire, même si c'est tout bête. Nous, on va aller sur YouTube de notre génération, sur les tutos. Et je trouve que ça, c'était pas mal aussi d'apprendre à faire tout ça à l'école, en fait.
Est-ce que tu penses que ce sera mieux demain?
Je pense que ça dépend peut-être le sujet de ce qui sera mieux demain. Parce que je vois qu'on a fait des avancées, on va dire, par rapport à leur génération, telles que, ben, par exemple, l'homosexualité, les choses comme ça. Sauf qu'en fait, c'est une fausse avancée, je dirais, parce que certes, on va légaliser le mariage, et au final, il y en a encore qui sont frappés parce qu'ils sont homosexuels. Donc c'est qu'une demi-avancée, parce que je pense que les mentalités, elles n'ont pas forcément suivi ou elles n'ont pas envie de suivre. Et donc du coup, je pense que ça peut être mieux, parce que du coup, ben, nous, on montre quand même qu'on a progressé sur ça, et en même temps, on recule. Donc voilà, et par rapport, encore une fois, peut-être aussi l'école, là je vois que ça se détériore, donc je me dis ça peut encore empirer. Et en même temps, on parle du harcèlement scolaire qui touche aussi l'école, et ça on n'en parlait pas avant, donc ça je pense que ça peut aussi s'améliorer. Donc je pense vraiment que ça peut être mieux comme ça peut être pire suivant le domaine et la réaction de chacun.
Comment tu vois l'avenir du monde de manière générale ?
Ben là, avec tout ce qui se passe actuellement, je te dirais que ça craint un peu, mais vraiment actuellement, mais pareil, après ça dépend aussi de ce que tu regardes, parce que si tu regardes que les infos, t'as l'impression que c'est l'apocalypse. Mais après, quand tu t'intéresses sur d'autres sujets, eh ben, je me rends compte qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont faites par rapport à tout ce qui est recyclage, la nature, les choses comme ça, qui font qu'on essaye quand même de préserver un maximum. Et ça, je trouve qu'on en parle plus, et avant on en parlait beaucoup moins. Même dans tout ce qui est cosmétique, les choses comme ça, les gros sujets qui intéressent vraiment toute la société de consommation, et ben il y a plus ce sujet d'écologie, de tout ce qui est aussi problème de santé, de ce qu'ils mettent dans ce qu'on mange, etc. Donc ça, je pense que ça peut être un plus aussi, et même vis-à-vis de la nature, ou dans le sens où ben, on nous a dit que ça c'était pas bien, du coup moins de personnes vont l'acheter, du coup ben, quand on va les produire, on va essayer d'en mettre moins, parce que sinon on fait un chiffre d'affaires plus bas, et du coup je me dis que la société de consommation, elle est aussi obligée de s'adapter en fait, et sur ça je pense que ouais, ça sera mieux, du moins j'espère.
Comment tu vois ton avenir ?
Ben, on revient encore sur ce que je te disais tout à l'heure, moi je le vois comme ça, et en même temps plus j'avance dans le temps et plus je me dis ben, je vais pas y arriver, c'est de fonder une famille. Moi vraiment c'est ça que je vois, c'est tranquillement, en fait pour moi je sais pas, c'est comme si mon but c'était au moins d'avoir un enfant. Et de me dire, bah en fait, si je pars, il reste quelque chose et je peux transmettre aussi quelque chose. Je pense que c'est ça. C'est plus le fait de transmettre, d'apprendre à quelqu'un tout ce que toi t'as appris et tout ce que t'as reçu. Donc ouais, j'aimerais bien que ce soit ça et un peu plus paisible que maintenant. Un peu moins l'obligation de faire le côté métro, boulot, dodo. Parce que c'est fort ennuyant, enfin, tu t'ennuies rapidement. Mais en même temps, t'es obligé de le faire. Il y a des fois, t'as des journées où tu dis, en fait, t'as pas envie de rentrer. Mais ben, c'est pareil, dès que tu vas sortir, ça a un coût. Donc tu peux pas forcément le faire. Et en même temps, t'es crevé. Et tu te dis, ben, si je sors, c'est-à-dire que demain, je vais encore être fatiguée, etc. Et la société nous impose aussi un petit peu ce côté métro, boulot, dodo. Et j'aimerais bien que ça le soit un peu moins, en fait. Qu'on puisse se permettre plus de loisirs à côté. Après, je pense que c'est aussi un choix de vie. On peut choisir aussi le métier qu'on fait, etc. Mais ouais, j'aimerais bien que ce soit un peu plus comme ça, qu'on puisse plus profiter des choses qui nous entourent ou voyager ou les choses comme ça. Parce que même voyager, je trouve que ça a un coût aussi. Et ben, quand tu as un appartement, un loyer ou un crédit, tu ne peux pas te permettre non plus de partir trop longtemps. Et ben, en fait, il faut que tu travailles en fait, pendant un certain temps pour pouvoir te permettre de partir, ne serait-ce que 10 jours ou des choses comme ça. Et encore, ça dépend de ta destination. Donc j'aimerais bien que ça soit un peu plus profiter, on va dire, plus que subir.
Du coup, tu m'as répondu pour est-ce que tu veux des enfants et pourquoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant la raison que tu me donnes, parce que je trouve que ça fait vachement le lien avec le fait d'avoir peur de mourir et qu'il n'y ait plus rien.
Ouais, c'est ça, en fait.
Disparaît, et le fait de vouloir avoir un enfant pour transmettre quelque chose, justement.
Mais je pense que c'est ça qui est... Après, voilà, ça, c'est pareil, c'est des choses dont je me posais... Enfin, je ne voulais pas me poser la question. Et que je pense qu'au fond, on sait et qu'on n'a pas envie de se mettre en face. Et ben, du coup, comme je lisais tes questions, j'essaie de réfléchir en même temps. Et je me suis dit, en fait, je pense qu'il y a un lien. Mmh. Et en même temps, c'est pareil, quand tu n'es pas encore vraiment chez toi, etc., ben, tu ne te poses pas trop ce genre de questions non plus. Et vraiment, après, tu te les... Enfin, moi, personnellement, je me les pose plus.
Est-ce que tu as une religion ou une démarche spirituelle ?
Non, j'en ai pas. Après... J'en ai pas, mais je suis pas fait. Enfin, j'aime bien écouter aussi les autres parce que je connais vraiment rien dans tout ce qui est religion. Donc du coup, j'aime bien poser des questions pour essayer d'apprendre. Et je me suis aussi aperçue que des personnes qui ont la même religion, elles n'ont pas forcément la même vision de cette religion et la même façon de la pratiquer ou de l'interpréter même. Et je trouvais ça super intéressant. Et je trouve ça aussi d'un côté dommage parce que des fois, quand tout ce qui est débat de religion politique, j'ai remarqué, même si c'est le même parti, si on pense pas, enfin, si ils ne pensent pas vraiment dans le même sens, ça part vite en petite guéguerre. Et je trouvais ça dommage parce qu'au final, c'était quelque chose qui les unissait. Mais moi, non, j'en ai pas. Mais bizarrement, je dirais pas non plus il y a personne dans le ciel ou il y a personne sous terre ou des choses comme ça. Et j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui vont dire oui, on va finir en enfer ou des choses comme ça. Mais personne ne dit toujours on va finir au paradis. Et je me dis, c'est bizarre de dire on finit en enfer parce que ça veut dire qu'on pense quand même qu'il y a un enfer, mais on pense pas forcément qu'il y a un paradis. Donc je sais pas. Mais en soi, moi, j'en ai pas. Mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose, mais voilà, il n'y a pas un truc vraiment où je me dis non, c'est ce Dieu-là qui existe et c'est pas un autre.
Okay. Et tes parents, ils ont une religion ?
Ma mère était dans une école de bonnes sœurs, donc du coup, elle a eu cette éducation catholique. Et mon père aussi, il a été. Mes grands-parents étaient tout ce qui était église, des choses comme ça, enfin de cœur, des trucs comme ça, donc ils ont été. Ma mère voulait nous baptiser, mon frère et moi, à la naissance. Enfin, quand on est né, etc. Et mon père voulait pas, parce qu'il voulait que ce soit nous qui décidions quelle religion, si on voulait être baptisé ou non, plus tard, en fait. Et au début, c'est pareil, quand j'étais petite, et je me disais, voilà, je pourrais pas me marier à l'église parce que je suis pas baptisée, et je pourrais pas être marraine parce que je suis pas baptisée. Et c'était bizarre, en fait, de se dire ça. Et là aussi, je me rends compte que ça a changé comparé à leur époque, parce que maintenant, on a certains prêtres, curés, pasteurs, enfin, tout ce qui correspond à ça, qui sont ouverts et qui veulent bien que des non-baptisés deviennent parrains ou marraines et se marient à l'église. Et il y en a qui veulent bien aussi que ni le parrain ni la marraine soient baptisés, à condition des fois de faire... Après, ça dépend de la personne qu'on a en face de nous, de faire un écrit de pourquoi on veut être marraine, quel est le rôle d'une marraine. Et d'autres qui veulent qu'il y en ait un des deux qui soit baptisé parce que ça reste quand même de la religion. Et ça, avant, je ne crois pas qu'il y avait dans leur génération. Donc ça aussi, je pense que c'est un plus pour dire aussi que, quel que soit l'état, ils évoluent aussi dans le sens des mentalités.
Comment tu vois l'amour ?
Je ne sais pas. Comme je suis un peu issue de... je suis issue de parents divorcés et que je vois que tout autour de moi aussi, ce n'est pas forcément la joie. J'ai l'impression qu'en fait, c'est quelque chose d'éphémère. C'est tout beau, tout rose au début, pendant un certain temps, plus ou moins long, suivant les personnes, et qu'à un moment, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que... Est-ce que c'est la routine ou je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que ça se casse. Et j'ai l'impression que c'est inévitable, en fait. Là, tu vois, j'ai un cousin, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble, et 2 enfants, et au final, ils vont se séparer. Un autre cousin qui est marié, et ça m'a... Je m'y attendais pas. Parce que quand tu les voyais et tout allait bien. Et au final, ils vont divorcer. Et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment éphémère. Il y a un certain temps et que c'est décidé que ça sera tant de temps et qu'après, ça va se casser. Est-ce qu'après, tu le retrouves avec quelqu'un d'autre ou pas ? Je ne sais pas. Après ça, je pense que ça dépend du chemin de vie. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose d'éphémère. Ce que je trouve dommage. Et je pense que c'est aussi lié à notre génération, de ce que je te disais tout à l'heure, que... Avant, quelles que soient les difficultés, tu partais pas comme ça aussi facilement, c'était mal vu, etc. Et que maintenant, en fait, c'est devenu commun. Tu divorces, tu te dépaxes, tu te sépares, des choses comme ça. C'est devenu quelque chose de commun. Je suis en train de réfléchir, je sais même pas si j'ai des amis ou de la famille qui pourraient dire « Non, moi, mes parents, ils sont toujours ensemble depuis le début. » Et ça, avant, ça n'existait pas, en fait. Et du coup, maintenant, quand on voit des petits couples âgés qui disent ça fait 20 ans, 30 ans, moi, je trouve ça super beau. Et j'ai l'impression que maintenant, dans notre génération, ça n'existera plus. Et même pour le mariage, avant, ils se mariaient pas assez rapidement, mais c'était quelque chose d'obligé. Et maintenant, il y en a plein qui ne font pas forcément le mariage, ou alors qui le font parce que, il faut le faire pour des raisons religieuses ou autres. Mais ça n'a plus la même connotation. Avant.
Est-ce que tes parents sont au courant de ta vie amoureuse à toi ?
Non, on n'en parle pas. Non, c'est vrai, on n'en parle pas. Ouais. Ils ne me posent pas de questions, quoi que ce soit.
Et ils te mettent pas de pression genre sur le fait d'avoir des enfants des
Non, je pense que la pression, je me la mets toute seule. Mais non, il n'y a pas de pression de quoi que ce soit.
Sur notre génération, donc on entend beaucoup, tu sais, qu'on a la bougeotte, qu'on est instable, etc. Est-ce que tu penses que c'est synonyme d'une immaturité générale de notre génération?
Non, justement, moi je pense que c'est le contraire. Qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on peut se permettre de bouger plus, de faire des choses que peut-être eux, dans leur génération, ne pouvaient pas faire. Et donc du coup, pour eux, ben, c'est un changement. Alors que pour nous, c'est quelque chose de normal de bouger autant, de voyager, de faire plus de choses. Je pense qu'en fait, c'est pas qu'on est un peu plus ouvert d'esprit, mais les mentalités, elles ont plus évolué. Elles sont moins cadrées, on va dire. Et du coup, ça nous permet de faire plus de choses. Mais je pense que, justement, on en a conscience et que je pense pas que ce soit une preuve d'immaturité.
C'est quoi la plus grande force de notre génération?
J'aurais tendance à dire qu'on se laisse un peu moins faire. Mais du coup, on se sent un peu trop pousser des ailes, je dirais. On va un peu trop dans l'extrême, du coup. Mais je pense que sur ça, on a réussi quand même à ouvrir plusieurs sujets qui avant dont on ne devait pas parler et à faire passer, ben, par exemple, comme le mariage pour tous ou des choses comme ça. Et je me dis que ça, c'est plus une force. Parce que justement, on oblige un peu les anciennes générations à s'ouvrir et même les générations actuelles parce que encore maintenant, il y en a qui restent fermés sur certains sujets. Et je pense que ça, c'est une force parce qu'il y a plus de personnes maintenant qui osent rejoindre ce genre de groupe ou de manifestation.
Il serait comment le super-héros de notre génération?
Bah encore une fois, c'est l'ouverture d'esprit de certaines personnes. Je pense que ce qui nous bloque aussi, c'est vraiment l'ouverture d'esprit sur quel que soit le sujet, en fait. Pouvoir écouter l'autre et comprendre aussi ses différences et sa façon de vivre sans que ça parte tout de suite en catégorie ou que ça prenne des proportions énormes. Je pense qu'un super-héros, ouais, il pourrait faire ça, ça serait super bien. Ça, et changer aussi ben, le côté environnement, si des fois c'est pas top, mais enfin souvent d'ailleurs. Mais ouais, je pense que ça serait pas mal. Quelqu'un qui arrive à faire ça, je pense que ça serait mon super-héros, ouais.
Ce serait une femme,
hein? Ah bah tu vois, là dans ma tête, c'était une femme bizarrement. Et ça serait encore mieux d'ailleurs, parce que du coup, ça ouvrirait encore plus la mentalité, je pense. Mais bon.
La dernière question, YOLO?
Ouais, je pense. Mais après, voilà, moi, en ce qui me concerne, je pense que oui. Et en même temps, encore une fois, eh ben, il faut arriver à passer au-delà de ce que peuvent penser les gens et de leur mentalité à eux pour pouvoir vraiment en profiter. Et ça, je pense que c'est difficile. Même si on a envie de le faire, il y a toujours quelqu'un qui va être là et qui va te rappeler qu'au final, tu ne peux pas vraiment faire ce que tu veux. Et voilà, et je pense que ce côté de la société aussi, c'est compliqué de... Moi, franchement, j'envie hein, ceux qui arrivent à vraiment... s'en fiche complètement de ce que les autres peuvent penser et vraiment profiter à fond de leur vie parce que, ouais, effectivement, comme tu dis, YOLO. Mais ouais, ça, c'est compliqué, je trouve, quand même, à faire. Et je pense que ça dépend aussi le contexte où tu te trouves, dans quel environnement, etc. Je pense qu'il y a peut-être des pays ou même des villes où c'est beaucoup plus facile de faire ce que tu veux et vraiment de profiter à fond. Et je comprends que, du coup, ben, notre génération, elle est cette bougeotte parce que du fait de pouvoir bouger plus, de voyager, etc., on peut arriver à trouver un endroit où finalement ben, on se dit en fait c'est là qu'il faut que je sois et c'est là que je me sens mieux parce que je peux me permettre de faire ci que je peux pas me permettre de faire ailleurs. Et je pense que ça aussi c'est une preuve de maturité parce qu'on se rend compte des choses. Donc ouais.